Je crois que j'ai fait une découverte capitale dans les vestiges candoriens. Un recueil concernant les pratiques d'inhumation des anciens sumériens et contenant également des incantations funéraires. Il est intitulé « Padura de Monto », ce qui veut dire mot à mot « le livre de la mort ». Ce livre est relié en peau humaine et écrit avec du sang humain.
Tu fais ça?
Ah, tu veux que je te le dise? Ça n'a rien de sorcier. Je suis le méchant.
Chers amis, il est l'heure. L'heure de quoi? Mais l'heure du crime, bien sûr. Un crime sale, pas un simple fait divers, quelque chose de bruyant, quelque chose de fort. Bonjour à tous et bienvenue dans la 9e saison des Comptines du Forgeron, votre émission métal tous les dimanches de 17h à 18h, avec de multiples rediffusions tout au long de la semaine pour vous assurer que vous avez votre petite dose de violence musicale toutes les semaines. Et alors aujourd'hui, je commence par saluer mon camarade Didier. Salut à toi.
Salut Adrien.
On fait un petit
salut
coucou.
À tous.
Salut à tous, bien sûr, chers auditeurs. Et on fait un petit coucou à nos copains Damien, Vivien et Julien qui sont tous au lit, je pense.
Hein. Ouais,
c'est un dimanche un peu froid. Mais du coup, on avait peur de la solitude, alors on a amené quelques copains. Et alors, vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, on avait reçu le projet En finir de Malpermessita. On avait reçu une personne à la fois. Là, on a ramené un peu plus d'effectifs.
Ouais, je me sens moins seul dans le studio.
On a 3 personnes avec nous. Bonjour, Aïd.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, très rapidement, pour que les auditeurs puissent fixer les voix et les rôles de chacun, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire ce que vous faites dans le groupe?
Bénédicte, Ben, chanteuse.
Raphaël, Rad, bassiste.
Et moi, c'est Olivier Holm, et je joue de la guitare.
Et alors, pour commencer, pour les auditeurs qui vous découvrent aujourd'hui, il faut dire que le groupe existe depuis 2009, si j'ai bien regardé. Et il faut dire quelque chose quand même de très important parce que voilà, c'est quand même un gros accomplissement pour notre émission, c'est que vous êtes le premier groupe international qu'on reçoit dans cette émission.
C'était à signaler.
En 9 ans d'émission, on n'avait que des groupes français et aujourd'hui on reçoit un groupe belge et c'est un énorme honneur pour nous, donc merci d'avoir répondu à l'invitation. Et alors pour commencer, j'ai envie de vous demander comment le nom de Hyde s'est imposé, parce que spontanément on pense à l'œuvre de Stevenson, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Est-ce que c'est ça ou est-ce que pas du tout?
Un peu.
Oui, il y a de ça effectivement. Alors, il y a de ça pour plusieurs raisons. Ce sont des raisons qui se rejoignent. Une des raisons est que c'est un projet pour lequel on ne souhaite pas de faire de publicité dans nos activités civiles, on va dire.
Donc c'est une activité sombre de notre vie qui est potentiellement incompatible avec nos activités civiles.
D'accord, et ben on ne vous posera pas de questions sur votre activité civile.
Voilà, le reste aussi évidemment c'est le sens, la signification première, c'est-à-dire le côté obscur que chacun a en soi, derrière soi, en dessous de soi.
Que l'on exprime dans plusieurs morceaux et notamment dans Hammer of Doom, dans cet album Arduina.
Et justement, la raison pour laquelle vous nous rejoignez aujourd'hui, c'est parce que pas plus tard que vendredi, vous avez sorti votre 2e album, Arduina. Et alors si je ne me trompe pas, c'est votre première sortie en format physique, parce que Seeds of Doom était, enfin en tout cas il est mis en avant comme numérique, est-ce que c'est le cas?
Non, il est sorti aussi en format physique, mais on l'a fait en autoproduction.
D'accord, et cette fois-ci, vous êtes signé chez Malpermessita Records.
Exactement.
Comment s'est créé ce partenariat avec Juliette, qui va nous rejoindre probablement au cours de l'émission d'ailleurs?
Bah, c'est par personne interposée, en fait. Nous sommes des grands amis d'un groupe liégeois de Doom, de Funeral Doom.
Fading Bliss.
Et c'est à travers Fading Bliss, Denis Halleux, que nous avons pris contact avec Juliette.
Dont on s'est souvenu alors qu'on l'avait déjà croisée sur une scène à Lille. J'avais partagé de bons moments avec elle. J'avais parlé de ma fille, etc. Et puis on s'était perdu de vue. Et c'est par l'intermédiaire de Denis qu'on s'est retrouvés, notamment à l'occasion d'un Metal Méant, festival belge.
Défunt,
malheureusement, qui est maintenant, ne sera plus organisé, mais qu'on appréciait beaucoup de Metal Extrême.
Et il faut dire que Arduena sort du coup pas mal de temps après le premier album, parce que Seeds of Doom date de 2016. D'aucuns diraient, avec médisance, que ça fait pas mal de temps entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, mis à part l'apocalypse qu'on a vécu en 2020
Ça fait partie de l'histoire.
Oui, ça nous a pas aidé. Clairement, on a perdu quelques années avec le Covid. Mais il y a eu un changement dans le line-up des musiciens aussi, qui nous a aussi ralenti. Et pendant cette période, on en a profité aussi pour changer quand même le son qu'on avait par rapport au premier album. Les influences ont été fort différentes. Et globalement, le son est beaucoup plus noir et plus violent dans le deuxième album que ce qu'on a produit la première fois.
Ce que je vous propose justement pour découvrir ce nouveau son, c'est qu'on se passe un premier titre pour après ensuite parler de toutes ces influences. Et du coup, je pose une question que je vais poser plusieurs fois au cours de cette émission. Qu'est-ce qu'on met ?
À vous de choisir.
Qu'est-ce qu'on passe comme morceau ?
Oui. Voilà.
En premier lieu ?
Il y en a un en tout cas qui est sorti en vidéo, qui vient aussi de sortir en vidéo, et qui s'appelle Vide Lua.
Eh bien c'est parti du coup.
Bah, pour Vide Lua, c'est parti.
On s'écoute ça tout de suite. Bienvenue dans les comptines du Forgeron, restez avec nous.
Just don't fight.
Vous êtes sur Radio PFM à l'écoute des Comptines du Forgeron et on venait d'entendre le morceau Vide Lua, le cinquième morceau du nouvel album Arduena, sorti par Hyde. Et Hyde est avec nous dans les studios, ça tombe bien, on va pouvoir développer un petit peu tout ça. La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est que tu disais, Raphaël, que là, une vidéo vient de sortir pour Vide Lua. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prioriser cette chanson plutôt qu'une autre pour avoir son clip ? Est-ce que c'est la chanson elle-même et les thématiques qui sont abordées dans la chanson vous inspirez des images ou est-ce que
oui, certainement, mais c'est aussi la dynamique du morceau. Je crois que c'est voilà.
C'est le dernier composé de l'album aussi.
Oui. Et avec un format un peu plus court que les autres morceaux.
Oui.
Qui permet plus facilement, je dirais, d'avoir une vidéo, quelque chose qui reste en tête et de pas se perdre. On a des morceaux, voilà, le morceau avec le même titre que l'album Arduena, il dure quand même 9 minutes. Ce qui est peut-être plus complexe à passer plus simplement sur une vidéo YouTube.
Oui, puis c'est vrai que c'est aussi toute une mise en œuvre déjà de créer un clip. Alors créer un clip en imaginant quelque chose de 9 minutes, ça peut aussi amener des éléments logistiques supplémentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des conditions de réalisation de cette vidéo ? Comment ça s'est mis en œuvre ?
Mais ça, c'est un ami de Thomas, le batteur.
Le batteur.
Qui est infographiste 3D. Et dans le groupe où il n'y a personne qui fait du... Enfin, on n'a pas dans nos compétences, en dehors de la musique, de visuel. Donc, on est un peu démunis. Donc, on appelle aux amis. Et voilà, Giacomo Boucard a répondu à l'appel. Et il nous a fait plein de propositions. Alors, d'abord, sur des visuels pour l'album. L'essentiel des visuels sont faits par lui. Il y a d'autres. Il y a un design qui est fait par Raphaël Régis.
Le chanteur d'Enthroned.
Mais le reste, c'est. Et le logo aussi par Régis, mais le reste, c'est Giacomo. Donc il nous a proposé des visuels et puis de fil en aiguille, on a parlé d'un clip et il nous a proposé tout ça. Donc tout ça vient profondément de lui, plus que de nous, mais sur base de. Voilà, sa connexion à nous sur le plan de l'amitié, particulièrement avec Thomas, et le fait qu'il apprécie notre musique et comment il la comprend, comment il l'entend. Évidemment, on a eu un regard avec lui, mais ça vient quand même de son inspiration.
En gros, il y avait quelques idées de base. Les idées de base, c'est un visage avec... un visage, un personnage humain avec des cornes de cerf, un peu comme Cernunnos. C'était un peu l'imagerie de base. On lui a donné quelques directions et puis il a produit une quantité incroyable de propositions.
Et Vide Lua raconte l'histoire de femmes particulières, autonomes, brillantes, compétentes, qui ont des connaissances dans le monde celtique. Je dois resituer, qui ont des connaissances notamment en médecine, enfin en herboristerie, etc. Donc des femmes qui ont ces compétences, ces qualités, qui sont des personnages importants de cette communauté à l'époque. Et donc il y a aussi tout ça qui l'a inspiré, avec un caractère aussi un peu gothique, doit-on le dire, qui traverse de toute façon tout l'album.
C'est bien, j'allais justement le préciser que donc selon les langues celtes, on parle de sorcières ou de voyantes pour Vide Lua, et ça va avec cette idée de avant tout des femmes savantes et autonomes, ce qui pouvait poser problème à une certaine patriarchie chrétienne.
Exactement.
Exactement, oui. Vous connaissez bien le sujet.
C'est ce côté qu'on veut mettre en avant dans la chanson, pas un imaginaire de sorcière. De femmes ridées, mais plutôt ici de femmes ermites, mais avec une grande connaissance et qui posait probablement problème au pouvoir en place et qui dans la chanson se veut menaçante puisqu'elle-même est menacée.
Et justement, c'est une très bonne entrée en matière pour la thématique générale d'Arduena. On disait un petit peu plus tôt que les influences ont changé et il me semble les thématiques aussi, et en l'occurrence cet album est beaucoup plus païen que le précédent, rien qu'à travers son titre qui est une référence à la déesse des Ardennes et à travers aussi l'approche musicale. Alors moi personnellement, il y a des riffs qui me font penser à du Bathory ou à du Amon Amarth, par endroit, même si stylistiquement c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des airs qui me font penser à ça. Quelles ont été justement vos influences et en plus, Olivier, tu parlais d'un changement. Sur quoi vous avez plus ou moins commencé comme influence et vers quoi vous avez évolué? Ça peut être intéressant aussi.
Oui, bien sûr. Ben le groupe ici s'est formé avec Bénédicte et Raphaël en 2009. Et donc Maxime, qui n'est pas présent aujourd'hui, était également aussi dans la formation initiale. Et à ce moment, le groupe cherchait encore ses marques et partait plutôt dans une ambiance prog, gothique et doom. Mais donc doom dans le sens d'une musique jouée lente, mais pas au sens du doom traditionnel. On n'est pas sur un doom heavy. Il y a vraiment très peu d'influence heavy metal dans ce qu'on fait. Et après, on a différents musiciens qui sont, surtout la batterie, passés dans le groupe. Et alors que moi, je suis arrivé dans le groupe, la direction musicale a évolué vers des courants plus méchants, plus violents, donc avec des influences de death, de black, et notamment effectivement une influence ici dans cet album plutôt pagane. Après, je ne sais pas s'il y a un groupe directement qui nous a influencé dans cet univers musical pagane. Je dirais que le côté folk et pagan vient surtout de la thématique qu'on veut raconter dans l'album, plutôt des lyriques, que dans l'univers musical qui a suivi en fait les paroles également. Mais je dirais que les influences qu'on a essayé de rendre ici sont de plus en plus, et dans la suite de ce qu'on va produire, tournées vers le black metal sans vraiment rentrer dedans, parce qu'on n'a pas non plus la volonté de faire un groupe de black metal. C'est, je dirais qu'il y a beaucoup de nos codes qui ne correspondent pas à ce qu'on fait dans le milieu du black, ne fût-ce que ça s'articule à la base, avec un chant féminin, en clair, avec maintenant beaucoup plus de voix saturées. Mais donc ce code en particulier ne nous fait pas rentrer dans certaines, je dirais, catégories de métal. Mais on a quand même envie d'avoir cette influence première d'une musique black metal, mais dont on casse, je dirais, la dynamique par des passages très lourds et très lents, sans non plus rentrer complètement dans le style doom, où on a des musiques qui font 10-15 minutes et qui sont lentes du début à la fin. On aime cette approche d'avoir une musique, je dirais, tendue et dynamique, qui est cassée par des passages très lourds et très lents.
Et justement, Bénédicte, j'avais envie de te poser un peu des questions sur ton approche du chant. Alors, de mon point de vue de guitariste, je trouve que le chant, c'est vraiment un poste très ingrat, parce qu'on prend beaucoup de risques, en fait. Et pour peu de choses, on peut perdre sa voix et pas être prêt pour le concert. Et je me demande, en fait, comment a été ton parcours de chanteuse, à la fois sur le côté plus lyrique de ton chant et sur le côté plus guttural. Comment t'es arrivée à l'un et l'autre?
L'un à l'autre. Eh bien, au départ, moi, je suis une chanteuse un peu tardive. Hein. Quand j'étais petite, je chantais, mais on me disait que ça n'allait pas, j'avais pas trop la voix Disney. J'ai toujours une voix avec un grain. Et donc, j'étais frustrée. J'ai fait, après, j'ai quand même fait du chant rock, stoner, funk metal. Et puis, quand j'ai fait le tour de ça, on m'a conseillé d'aller voir une fille terrible, Maggie Leighton, qui a notamment chanté dans Virus 4, dans Nightmare pour la France. Vous connaissez bien maintenant The Prize avec Mr. Godin. Et cette femme extraordinaire m'a appris à passer d'une voix claire, rock, à une voix saturée. Et mes premiers sons, c'est sur We Will Rise, Dark Enemy. Et puis, bon, voilà. Après, j'ai exploré beaucoup sans elle, mais en venant de temps en temps faire des journées de voix saturée avec elle. Elle, c'est une conseillère extraordinaire. Et je conseille tous ceux... Bon, en plus, elle fait des passages en France, hein, dans quelques villes. Bordeaux, je pense, aussi, dans le Nord, j'ai oublié. Tant pis, j'ai oublié. Désolée, Maggie, j'ai oublié. Bref, il y a pas mal d'endroits où elle vient faire des journées comme ça, et elle est extra. Donc, elle apprend à éviter de s'endommager la voix. Ce qu'il faut surtout, c'est y aller franchement. Voilà. Moi, au début, je n'aimais pas du tout la voix saturée. C'est ça qui est assez marrant. J'ai découvert avec Ghost Brigade ou Apes, sont des groupes où les chanteurs respectifs ont des voix extraordinaires en clair et des très beaux growls et grunts également. Et donc j'ai découvert, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai commencé. Et maintenant, je m'amuse comme une folle là-dessus. C'est vraiment, je découvre le monde, je rentre dans ce monde-là. Le premier morceau que j'ai fait en voix saturée, c'était One. C'était assez monolithique comme, comme grunt. Et puis après, j'ai découvert. C'est très, très gai, c'est très défoulant. C'est un exutoire des contraintes de la vie. Extraordinaire, je le conseille à tout le monde. Un peu comme le yoga, mais dans un autre mode.
En tout cas, moi, je suis toujours admiratif devant ce style de voix, parce que je t'imagine au bout d'une heure et demie de concert, dans quel état tu te sens, au niveau physique, au niveau vocal, quoi, je veux dire.
Ben, normalement, très, très bien. Là, j'ai la voix qui est un peu passée, parce que j'ai chanté vendredi, après, je suis allée dehors en petite tenue, beaucoup trop longtemps. Et puis, j'ai été à un autre concert hier. Donc voilà, je ne me suis pas économisée. J'ai pas fait tout bien, comme Maggie me dit. Mais normalement, après une heure de scène, après trois heures de répète, il n'y a pas de problème, tout va bien.
Moi, j'ai toujours été admiratif devant ça.
Toute la technique est là, effectivement. Des gens qui arrivent à produire des sons incroyables, mais en s'économisant et en ne détruisant pas leur code vocal.
Oui, voilà, bien sûr.
Après, c'est aussi quelque chose de plus moderne, parce que je pense qu'au départ du métal, les gens s'égosillaient dans leur micro.
Je pense, oui. J'imagine.
Il y a des trucs qu'il ne faut pas conseiller aux gens. Le placement du micro de Lemmy Kilmister n'est pas à conseiller aux gens.
Tout à fait. On en parlait encore hier en regardant.
Puis à son âme.
Mais pour revenir aussi sur un élément qui fait l'unicité de Hyde, c'est que c'est un groupe qui fonctionne vraiment à deux chanteuses. Et comme on le disait un petit peu plus tôt, il y a eu du turnover sur la deuxième chanteuse du groupe. Et comment s'est passée l'arrivée de Val dans le groupe
En fait, Céline nous a quittés et on en était vraiment très tristes, parce qu'elle avait une voix rock brillante, sublimissime. Et on cherchait quelqu'un pour la remplacer. Et on avait envie d'aller un petit peu plus loin quand même dans le travail vocal pour avoir une deuxième voix qui apporte quelque chose de plus qu'un chœur. C'est vrai que sur le premier album, on n'a pas travaillé beaucoup les chœurs. On n'a pas fait un travail harmonique terrible. Mais c'était le début aussi. On apprend avec le temps. Et donc, Val, parmi différentes personnes potentielles, moi j'avais retenu Val, qui est une copine avec qui j'avais cours, pour ses compétences en harmonie, parce qu'elle a fait du chant choral en fait, et elle en fait toujours d'ailleurs, pendant des années. Et donc voilà, elle apporte ses connaissances harmoniques et ce travail harmonique que vous entendrez, que vous avez peut-être, enfin toi Adrien, tu as déjà entendu, Didier aussi, mais que vous, auditeurs, découvrirez j'espère avec plaisir.
Et comment s'organise la composition dans le groupe, Raphaël ? Est-ce que tu es un bassiste Steve Harris qui fait tout, ou est-ce que c'est du collectif total ?
Alors, le premier album, c'était du Steve Harris qui fait tout. Et puis...
Avec l'arrivée d'Oli.
Avec l'arrivée d'Oli, oui, les choses ont changé. En général, sur les deux albums, Max fonctionne un petit peu en capsule. Donc lui, il amène un morceau. Son morceau par album, et le morceau on n'y touche pas, on le prend tel quel, mais en général le travail se fait avec moi et Olivier, et on apporte chacun des riffs, Oli maintenant de plus en plus, donc lui produit les deux tiers des riffs de base, on va dire, ou les trois quarts des riffs de base. J'en apporte quelques-uns, on assemble.
C'est ça, on assemble, on propose mutuellement des choses, on se les fait écouter, on se dit tiens, on va ajouter tel passage, on va raccourcir tel passage. Et donc on propose, je dirais, au reste du groupe un produit fini sur le plan instrumental, sur lequel y a des retouches qui sont bien sûr faites par le type de jeu que Max à la guitare ou Thomas à la batterie a envie d'apporter. C'est ça qui fait aussi la richesse du groupe, c'est que comme on a des influences, je dirais, séparément fort différentes, le produit imaginé et le produit fini sont parfois fort différents. Et par-dessus ça, on essaye aussi d'articuler un chant clair et en voix saturée, et qui nécessite aussi des aménagements régulièrement. Donc, des passages sont modifiés pour permettre une ouverture au chant, surtout. Et surtout qu'il ne soit pas qui reste en avant, je dirais, dans la musique.
Ce que je vous propose, c'est qu'on passe un deuxième titre. Et du coup, re la question, qu'est-ce qu'on met ?
Si on mettait Arduina, puisque c'est le titre de l'album.
Eh bien, avec plaisir. Et nous, dans les Cantines du Forgeron, comme on est une radio associative, on n'a pas peur des morceaux de 9 minutes. Du coup, c'est parti. Restez avec nous dans les Cantines du Forgeron. On écoute Arduina de Hyde. C'est parti.
Thank you.
Si vous avez survécu au chef-d'œuvre que vous venez de vous prendre dans les esgourdes, c'était Arduina de Hyde, le titre éponyme de l'album, en sachant que l'album ne s'écrit pas pareil que le titre. J'aime bien les petites facéties linguistiques comme ça, ça me plaît bien. Et pour parler un petit peu histoire géo, il faut dire que c'est un album qui parle des Ardennes, hein, il faut le dire, et notamment le premier titre, je suis allé chercher, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça, ça a un petit quelque chose de Lovecraft, ça me fait penser à Shadow over Innsmouth, et en fait pas du tout, et ça nous parle de la bataille de Sabis, si je ne m'abuse, en 57 avant Jésus-Christ.
Parfaitement.
Et pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui vous a inspiré là-dessus ? Déjà, de façon plus générale, comment vous en êtes venu à vous rapprocher un petit peu plus de cette notion de territoire, ce côté un petit peu plus effectivement pagan ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ça et puis de ne pas faire comme 15 000 groupes qui nous parlent de vikings et d'avoir quelque chose de quelque part plus proche de vous ?
Oui, c'est exactement ça en fait, c'est notre terroir. Et la question des origines, voilà, c'est toujours intéressant à explorer, d'autant que nos origines, enfin, la Belgique, la province belgique, hein, avant son annexion à l'Empire, c'est déjà une histoire de syncrétisme. Donc les Gaulois belges sont un syncrétisme entre la civilisation celtique et la civilisation germanique. Et déjà à l'époque, enfin, les rares écrits, parce que malheureusement il reste pas grand-chose sur le plan de la géographie, etc. Il y a vraiment pas grand-chose, mais c'est déjà une histoire de migration, c'est déjà une histoire de syncrétisme. C'est la fusion de la culture germanique et de la culture celtique, quoi.
Quelque chose qui tient fort à cœur à Raphaël.
Oui.
Et donc c'est pour ça qu'il lui est parti là-dedans et qu'on l'a suivi, parce qu'il est ultra motivé, enthousiaste et voilà, il est inspirant quand il est dans ces sujets et il les exprime bien. C'est d'ailleurs lui qui écrit les paroles. C'est Raphaël.
Et du coup, de cette manière-là, il y a quelque chose de vraiment très explicite à travers ce titre, Doom Over Sabis, le tout premier morceau. Il y a aussi Vidlua qui est une référence directe à ça. Est-ce que ça s'illustre d'autres manières, justement, vu que tu écris les paroles, quelles sont les différentes thématiques que tu as voulu explorer, par exemple, avec Nadir ou avec Leia Winter? Comment sont venues les choses?
L'inspiration, elle vient un peu... On écrit d'abord la musique, et puis je réfléchis au texte que m'inspire la musique. Donc,
sous l'influence de Bénédicte.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Selon ce que Béné ressent dans le chant, c'est ce qui fait la puissance aussi sur beaucoup de morceaux. Le côté perçant du chant, c'est que Béné est convaincu de ce qu'elle chante. Elle donne aussi ses modifications à Raph pour chanter quelque chose qui l'inspire, j'ai l'impression.
Doom Over Sabis, par exemple, la musique, c'était une évidence que c'était une bataille pour moi. Et donc, il m'a dit, ok. Et donc, il est parti dans Sabis. Voilà. Sinon, les autres influences, mais vas-y, hein, Raph, mais au-delà de cette histoire, de ce monde celto-germanique qui nous intéresse, il y a aussi, en rapport avec le titre, le nom du groupe et le monde gothique qui est un monde qui nous inspire aussi. Il y a des morceaux qui parlent de la noirceur de l'être humain, Hammer of Doom. Il y a des morceaux qui parlent de cette noirceur, mais de manière plus poétique, comme Leo of Winter, où on passe de l'été à l'hiver et on passe de notre vie claire à nos fantômes, la confrontation de nous-mêmes dans ces moments reclus, cosy de l'hiver froid. Je te passe la main, Juan.
Ces moments où on écrit des textes tordus, il n'y a plus de lumière du jour, on sent les choses qui montent le long de la peau, on se dit... je m'imagine très bien, c'est... auteurs dans la musique black qui se retrouve comme ça pendant 6 mois par an avec zéro soleil et qui sont tout seuls dans le fin fond de leur Norvège ou en Finlande et qui n'ont rien d'autre à faire que de ressasser des pensées qui ne sont pas toujours très joyeuses et qui arrivent à pondre des textes dont certains sont quand même... Certains sont quand même assez exceptionnels, mais ça fait ressortir comme ça toute une série de sentiments de solitude, de noirceur, d'entropie et de voilà.
J'ai l'impression que vous ne laissez rien au hasard. Je pense que vous êtes vachement au fait de vous documenter sur des livres historiques, etc. Je pense.
Arduino, c'est une autre bataille. Hein. C'est l'histoire de la bataille d'Atouette. Non, je me trompe. Oui.
Oui, mais excuse-moi de t'avoir mis dans la confusion, pardon.
Oui, il y a deux batailles qui sont illustrées dans les chansons, mais la deuxième n'est pas nommée telle qu'elle. C'est la bataille d'Atuatuca, qui est l'autre bataille documentée par les écrits de Jules. Et comme je le disais, il y a quasi rien, on n'a quasi plus rien de cette époque-là, donc... Voilà, ce sont des fragments, malheureusement, en Belgique encore moins qu'en France, on a vraiment des traces, c'est vraiment très clairsemé. Mais donc voilà, il y a d'autres sujets.
Mais il tient en tout cas à Raphaël de rappeler cette culture et l'origine de notre culture belge. Il y a 2 jours encore, pour notre release, on jouait notamment avec Ildir et Nidvin qu'on a hébergé à la maison. Et il nous demandait justement, mais quelle est la spécificité belge ? Évidemment, on a dit, l'humour. Vous nous avez volé tous nos humoristes. Nos chanteurs, peut-être aussi un peu, certains. Et puis on a dit, c'est ce mélange, en fait. C'est ce mélange de cultures. On est entre le sud et le nord. On est... plus du nord, je pense, que du sud, mais historiquement, on a toujours été balayé par des cultures, on a été soumis par les uns, par les autres, on s'est quand même un peu rebellé, il paraît qu'on est les plus braves, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais il nous tient à cœur, il tient particulièrement à cœur à Raphaël, mais tous ensemble, avec lui aussi, d'honorer cette histoire et cette culture, et effectivement, Raphaël le fait en se documentant, parce que c'est un homme... sérieux et scientifique et qui tient aux détails. Oui.
Bah puis c'est vrai qu'après le fait d'avoir une histoire aussi fragmentée, ça peut permettre aussi de donner pas mal de place à créer tout un imaginaire justement. Notamment quand on est un petit peu scrupuleux, ça peut être un challenge de s'attaquer à des faits historiques.
Oui, c'est ça.
Justement, enfin là on a énormément la polémique avec le Napoléon de Ridley Scott qui est très tourné vers quelque chose de spectaculaire et que les historiens démontent gaillardement. Et toute la question est là, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on touche à quelque chose d'historique ? Et c'est vrai que d'avoir quelque chose de fragmenté, ça laisse pas mal de place pour bâtir un petit peu son imaginaire sans être trop profane ou trop blasphémateur.
Tout à fait. Et d'ailleurs, oui. Je trouve que la pochette de l'album est très parlante là-dessus parce que c'est une Ardenne fantasmée. Hein, elle est un peu dramatisée, mais... ça laisse la place à l'imaginaire et effectivement l'aspect fragmentaire des connaissances sur la question, ça laisse aussi de la place. Ce qui est à retenir selon moi, c'est vraiment ce mélange, ce syncrétisme. Donc c'est un bouillon de culture, mais dont il ressort finalement quelque chose, mais c'est vraiment un réceptacle de culture, c'est un croisement de culture.
Et là où je m'interroge, alors c'est peut-être un petit peu prématuré comme question, c'est que je me demande si, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous voulez vous installer, ce côté un petit peu géographiquement ciblé, ce côté un petit peu plus pagan. On sait déjà, Olivier, tu disais qu'au niveau musical, ça va vers quelque chose de plus sombre au niveau influence, mais est-ce que cette thématique-là, c'est quelque chose dans laquelle vous comptez vous installer un petit peu à l'avenir, ou est-ce que c'est quelque chose qui sera amené à changer ? Encore une fois, c'est peut-être très prématuré. L'album vient de sortir.
Ne pas si prématuré, parce que le suivant n'est pas trop loin derrière, enfin on espère.
En tout cas, on a bien avancé.
Oui, on espère ne pas laisser autant de temps entre les deux. Donc le prochain.
Je pense que ça restera assez fort dans la même veine, peut-être encore plus noir, oui, peut-être plus agressif. Maintenant, on a décidé de ne pas se mettre de carcan. Il y a des tas de gens que j'entends ou que je lis sur des réseaux en train de dire « Ah oui, mais avant, c'était mieux », ou etc. Pour moi, un groupe qui... Il y a aussi un intérêt à évoluer. Et moi, je respecte des groupes qui changent de style. Bon, ben, si je n'aime plus, je n'aime plus. Mais c'est mon goût personnel. Mais je trouve que s'installer dans un confort ronronnant en retapant tout le temps la même recette, c'est pas nécessairement la chose à suivre. Et en tout cas, nous, on est là exclusivement pour se faire plaisir à nous. Notre premier but, c'est ça. J'espère que les gens peuvent suivre et apprécier également, mais on continuera et la route, ben, on verra où elle nous mène.
En fait, les six musiciens, les six membres de Hyde, on a des influences à l'origine déjà très différentes. Et donc, on a. Hyde, c'est le syncrétisme de ces influences différentes. Et on évolue nous-mêmes, chacun, au fil du temps. Moi, il y a 20 ans, il ne fallait pas me parler de métal. À part le funk métal, je ne connaissais pas. Et donc, on évolue tous dans nos propres découvertes et des découvertes interactives. Donc, ce qu'on sera demain, ben, on ne sait pas. Et probablement autre chose. Moi, j'adore le changement.
Probablement autre chose, je pense, oui. Et d'autant plus que, comme on l'a dit, les connaissances sont très fragmentaires et on a déjà fait pas mal le tour du sujet. Donc pour rester dans cette idée pagane, ça c'est possible, mais rester dans l'idée d'une description plus ou moins historique de ce qui s'est passé sur le territoire de la Gaule-Belgique, ben, on va être assez limité à un moment. Et l'idée n'est pas de ressasser encore et encore les mêmes informations.
Pour parler de choses justement changeantes et diamétralement opposées, avec un autre camarade de l'émission qui est absent aujourd'hui, on vous a découvert en live l'été dernier à la Brad Cave, et là vous avez joué la release vendredi. Alors il faut dire que la fois où on vous a découvert, la température de la Brad Cave était pour ainsi dire infernale. En dehors de
c'était
cette...
L'horreur.
C'était l'horreur pour les auditeurs comme pour vous, j'imagine. À part ça, est-ce que vous avez vécu la release justement différemment? Est-ce que ça s'est mieux passé peut-être? Et est-ce que le fait qu'on soit un petit peu en hiver, ça vous a fait sentir un peu plus en phase?
Mais ici, la release, c'était vraiment une réussite. Mais déjà, on était, je dirais, dans nos pénates, on connaissait la salle, on connaissait bien le gérant et j'irai par rapport à la Brad Cave d'un point de vue technique, il n'y a pas photo, on a été j'irai bien mieux reçu ici à la MJ Tamine et on a pu sur base de ça, après avec je pense beaucoup de travail aussi parce qu'entre les deux concerts on a quand même beaucoup travaillé, on a pu produire quelque chose de plus percutant je pense que ce qu'on a donné à Lille.
Je crois qu'à Lille, il y avait quand même un problème de concept. À partir du moment où il faisait à peu près 50 degrés dans la salle et que nous, on parle des tréfonds de l'hiver et de l'après-la-vie, mais dans le froid et pas l'enfer chaud. On n'est pas dans cette version-là. Nous, on est dans le froid, on monte tout le temps dans le nord. Il y avait une contradiction que je n'arrivais pas à exprimer. Je me sentais par exemple un peu retenue. J'étais plombée par la chaleur et j'étais en train de chanter un truc sur le froid. D'ailleurs, j'ai fait 2-3 remarques sur scène pour le dire. Hein, on va vers le froid, les gars. Mais c'était pas possible, non, c'était pas vrai. Pas. Donc, c'est vrai qu'il y avait une contradiction. Voilà, on reviendra avec un album plus ensoleillé à Lille. Pourtant, c'est pas si fort dans le nord, mais bon, voilà, changement climatique. Et non, il y a 2 jours, c'était vraiment exceptionnel. Outre effectivement l'accueil de la MJ Sambreville à Tamine est exceptionnel. L'ambiance était très bonne. La cohésion avec les deux groupes, Ildir et Nidvind, qu'on accueillait, était vraiment très chouette. Le public était un public pas que de curieux, d'amateurs de métal. De curieux un peu parce qu'ils ne connaissaient pas peu... Nidvin et Ildir, par exemple. Certains ne nous connaissaient pas bien non plus. Mais voilà, c'était un bon moment, un moment cocon entre nous, avec un public sympa, averti, et qui, je pense, a été comblé, j'espère. En tout cas, on a eu des retours très positifs.
Oui.
Est-ce que vous avez d'autres dates à annoncer déjà pour prendre nos agendas?
Alors malheureusement pour le moment non. Voilà, on est musicien, allez, motivé. On a tous un autre métier derrière et des métiers quand même qui nous prennent beaucoup de temps. Et donc, on n'est pas toujours suffisamment rapide, on va dire, là-dessus. Mais c'est sûr que demain, ou plus précisément après-demain, on s'y attelle et on s'en va à la recherche des orgas et des salles.
À bon entendeur. Et je vais passer un petit peu le micro à Juliette qui nous a rejoint entre-temps en plein milieu du direct. Salut.
Salut.
Salut Juliette.
Pardon pour la voix de ce soir, elle est pas...
Ah non, mais on a tous eu des week-ends très actifs.
Ah, hein, c'était très chargé, on va dire, oui.
C'est pareil, on a quelques camarades qui se sont bloqués le dos à Skin d'hier. On fait coucou à Julien. C'est un mois assez fast hein, pour Malpermesita Records.
Oui, on s'est réveillé un peu de notre torpeur post-pandémie et... On en a dans tous les sens, mais c'est très bien, très bien. La dynamique, elle est revenue. Et en plus, ce sont de très belles sorties. Donc, parce que je vais citer un chroniqueur que nous avons ici dans les locaux. Malpermesita sort peu, mais sort bon. donc oui, non, c'est... Là, on est reparti. On va peut-être un peu plus se calmer après sur la fréquence sur 2024. Mais on va reprendre un rythme un peu plus... un peu plus à la cool, mais oui, ouais, c'est intéressant, intéressant de travailler un peu sur la brèche comme ça.
Et toujours bénévolement, enfin c'est toujours...
C'est toujours du bénévolat, oui.
Et tu avais eu le temps de nous expliquer que Malpermesita fonctionnait principalement au coup de cœur et à l'humain. Comment as-tu découvert Hyde? Comment Hyde s'est donné à toi? Le groupe nous a dit qu'ils ont entendu parler de toi par Fading Bliss, mais du coup, comment toi, tu as reçu Hyde?
Moi, je les ai découverts sur scène au Midland, en première partie d'Oudit Priest. On a échangé quelques mots à l'époque avec Bénédicte quand j'ai acheté Seeds of Doom. Et après, par la suite, donc en effet, c'est Denis de Fading Bliss qui est venu me voir à Méhan. Ils étaient pas loin en disant ouais, « Tu sais Hyde? Ah, mais je connais Hyde. » Oui, mais c'est plus pareil, et il faudrait qu'ils jettent une oreille, parce qu'ils ont réussi à mélanger Pagan, Black et Doom, mais de manière cohérente, ce qui n'est pas évident, par rapport aux structures des trois styles. Et puis, ben, j'ai écouté, et j'ai dit, ben, on y va. C'était il y a 2 ans. On a pris notre temps, mais le résultat est là, et le résultat, il est fantastique. Et moi, je ne peux être que fière d'avoir ce genre d'albums, de groupes et de sorties à mon roster. Quoi. Enfin,
merci.
On arrive petit à petit, et c'est vraiment déchirant, on arrive petit à petit à la fin de cette émission, et du coup je vous pose une question qu'on pose à un petit peu tout le monde, mais qui a toujours son lot de réponses intéressantes. Est-ce que vous avez un rêve à réaliser avec Hyde? Est-ce que vous avez un accomplissement à atteindre que si vous le faites, vous direz « Ah ouais !»
Bien sûr. Jouer au Madison Square Garden.
C'est une bonne réponse.
Et en première partie ou bien en tête d'affiche? En première partie de qui, par exemple? Si on peut parler de première partie, ou alors carrément vous en numéro 1.
Ce sera nous en numéro 1. Mais ouais. Alors pour notre deuxième partie, on verrait bien.
Qui serait votre première partie alors?
Paradise Lost.
Pourquoi pas Immortal ou
Emperor.
Dark Throne, mais ils jouent pas, ils jouent plus, donc voilà. Enfin, il y en a plein, quoi. Mais voilà, ça peut être oui, Immortal ou. Bah voilà.
Non, en toute prétention.
En toute prétention, mais c'est ça.
Je
veux dire comme.
Malheureusement, Dissection n'existe pas.
Oui, il y en a un certain nombre. Il y en a un certain nombre qui sont oui.
Mais on peut les ressortir. Non, j'allais dire. Type négative, on peut les ressortir de la tombe.
Il y a les AI maintenant, hein, ils vont faire des hologrammes et puis on pourra faire des concerts.
Ouais, parce qu'à mon avis, là, John Nutvade et Peter Steele, ils n'ont plus grand chose sur leurs os.
Non. Ça peut être très spectaculaire en même temps.
C'est très doom en même temps de raviver Peter Steele avec des cordes, tu sais, un peu à la Evil Dead.
Avec l'œil qui tombe.
Creepy Green Light, oui.
C'est ça, ouais.
On a fait une fois un cover de Creepy Green Light, on aimait beaucoup.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Je vais déjà conclure cette émission pour qu'on puisse quand même se passer un dernier titre. Donc je vous rappelle, chers auditeurs, que si vous voulez réécouter cette émission, il faut vous brancher soit dans la nuit de lundi à mardi à 4h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche à 4h du matin, ou le vendredi à 23h pour terminer la semaine en beauté. Nous possédons une page Facebook, Les Comptines du Forgeron, que vous pouvez liker, partager, où vous pouvez suggérer des groupes à chroniquer, ou vous suggérer vous-même si vous voulez venir discuter avec nous dans les studios. D'ailleurs, la semaine prochaine, parce qu'en ce moment on est assez actif, on va recevoir les gars de Audism dans ses studios, donc il faudra que vous écoutiez ça de l'autre côté de votre TSF. En janvier, on reçoit le Hotfest qui vient nous parler de son warm-up et de la suite de ses aventures. On aura également les Supersonic Suckers. Et en février, comme quoi on est vraiment très très loin dans le futur, on reçoit de nouveau Coriandre qui vient nous parler d'écologie et de métal, et on reçoit aussi le groupe Unfate. Voilà, c'est pour l'agenda, il faudra que vous surveillez.
Superbe programme.
On a pas mal de choses, on est assez actif. En attendant, bien sûr, vous pouvez venir discuter avec nous, même si vous n'êtes pas un groupe. Hein, on est toujours content de discuter métal avec vous. Vous pouvez élire votre chroniqueur préféré. Et cette semaine, c'est un match triple menace entre Julien, Damien et Vivien, car on le sait, les chroniqueurs que vous préférez, c'est ceux que vous n'entendez pas. Vous pouvez nous dire tout ça, bien sûr, sur le site internet de Radio PFM, www.radiopfm.com, où nos podcasts sont mis à jour le plus régulièrement possible. Et pour terminer, Hyde, du coup, qu'est-ce qu'on met ? On n'aura peut-être pas le temps de tout passer en entier, mais sur le podcast, on pourra bricoler ça.
Doom over Sabbath.
Ah bah ça, c'est une bonne idée. Du coup, on termine avec le premier morceau de l'album, Doom over Sabbath. Merci encore mille fois de nous avoir rejoints sur ce direct, pour notre premier direct avec un groupe international.
Avec plaisir.
Ça a été un grand honneur. Non, merci et à toi. Ce sera un grand plaisir de vous retrouver sur scène. Et une prochaine fois, si vous avez de l'actualité, n'hésitez pas à revenir.
Et pour conclure, bon vent à vous.
Merci.
Chers auditeurs, bonne semaine. Regardez bien de chaque côté avant de traverser la route et ne courez pas avec des ciseaux. Bisous.